Merci de nous suivre sur Radio Orient. Il est tout juste 17h, le journal Nadia Bencher. Au sommaire de cette édition, le ton n'en finit pas de monter entre les États-Unis et l'Iran. Washington multiplie les frappes depuis hier. En réponse, Téhéran a visé plusieurs bases américaines au Koweït, au Qatar et à Bahreïn. Nous ferons le point avec Clara Dubancher. Deuxième épisode de canicule, 9 départements en vigilance rouge demain et 76 autres en orange. Les températures pourraient atteindre 41 degrés dans le sud et un nouveau pic de chaleur est attendu dimanche. Mondial 2026 et match choc ce soir entre la France et le Maroc. Les Bleus qui veulent un troisième sacre auront face à eux des Lions de l'Atlas plus déterminés que jamais. Vous entendrez les sélectionneurs des deux équipes dans cette édition. Bonjour, la confrontation entre les États-Unis et l'Iran connaît une nouvelle escalade. Les frappes ordonnées par Donald Trump depuis hier ont mis fin au cessez-le-feu entre les deux pays au moment même où l'ayatollah Ali Khamenei est inhumé à Mashhad. Selon le ministère iranien de la Santé, ces bombardements ont fait 17 morts et 93 blessés. En riposte, l'Iran affirme avoir visé des bases américaines au Koweït où au moins une personne a été blessée, mais aussi au Qatar et à Bahreïn. Clara Dubancher, ces échanges de frappes marquent-ils une reprise de la guerre ?
Non, Nadia, en tout cas pas de manière totale. Pour Donald Trump, la trêve en place depuis 3 semaines est définitivement terminée. Les attaques de Washington cette nuit et aujourd'hui sont une réponse au bombardement de navires dans le détroit d'Ormuz, mené par Téhéran il y a 2 jours. Donald Trump annonçait donc hier des affrontements meurtriers, mais il assurait une fin très rapidement pour laisser justement la porte ouverte à la poursuite des négociations de paix. Cependant, le président américain avertit quant à la répétition de ces attaques sur son réseau Truth Social, menaçant d'une riposte encore plus violente. Le bilan des frappes américaines, donc, selon son armée, c'est 90 cibles militaires iraniennes, dont des systèmes de défense antiaérienne, des sites de stockage de missiles et de drones, et à Bushehr, la seule centrale nucléaire en activité.
Les États-Unis sont-ils seuls dans cette relance de frappes ?
Absolument pas, non. Si l'Iran est accusé en premier lieu par les États-Unis d'avoir enfreint le cessez-le-feu, les forces armées iraniennes ont-elles aussi riposté aujourd'hui. Sur le plan militaire, en représailles des attaques de Washington, vous l'avez dit Nadia, Téhéran a envoyé des drones kamikazes sur des sites américains implantés dans des pays du Golfe. Les sirènes d'alerte ont aussi retenti en Jordanie où des missiles ont été interceptés. Et sur le plan diplomatique, la vis se resserre pour les conditions d'ouverture du détroit d'Ormuz. Le principal négociateur iranien, Mohammad Khalibaf, réitère « Le détroit ne sera ouvert que selon les modalités iraniennes et non sous la pression des menaces américaines. »
Et cette escalade, Clara, il faut le dire, intervient dans un contexte particulier pour les Iraniens.
Effectivement, aujourd'hui marque le 6e et dernier jour de cérémonie en honneur au guide suprême mort dans une frappe américano-israélienne en février. L'ayatollah Khamenei est inhumé dans la ville sainte de Mashhad et le climat tendu n'a pas dissuadé la ferveur des fidèles, dont la plupart ont fait le déplacement et ont patienté des heures avant d'apercevoir le cercueil d'Ali Khamenei.
Merci Clara pour ces précisions. Les États-Unis ont repris leur livraison de dollars en espèces à l'Irak, une mesure suspendue plus tôt cette année pour faire pression sur Bagdad face aux groupes armés pro-iraniens. Washington voit ce geste comme un signe de soutien au nouveau premier ministre irakien, Ali al-Zaidi, attendu mi-juillet à Washington. Cette reprise intervient dans un contexte de rapprochement économique entre les deux pays. La Syrie a salué la décision des États-Unis de la retirer de leur liste des États soutenant le terrorisme, une mesure en vigueur depuis 1979. Damas estime que cette décision favorisera les investissements étrangers, la reprise économique et la réintégration du pays dans l'économie mondiale. Le retrait devrait devenir effectif dans un délai de 45 jours, sauf opposition du Congrès américain. Les États-Unis qui ont donné leur feu vert à la vente de missiles de croisière Tomahawk à l'Allemagne. C'est ce qu'a annoncé le chancelier Friedrich Merz. Berlin estime que cette acquisition renforcera sa capacité de dissuasion face à la Russie. Le travailliste Andy Burnham est en passe de succéder à Keir Starmer à la tête du Labour et au poste de Premier ministre britannique, seul candidat déclaré à ce stade. L'ancien maire du Grand Manchester devrait être désigné le 17 juillet, sauf candidature de dernière minute. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa sera reçu ce vendredi à l'Élysée par Emmanuel Macron pour une visite officielle de 3 jours en France. Les deux chefs d'État doivent évoquer les relations bilatérales ainsi que les grands dossiers internationaux. Le président sud-africain participera également à un sommet de l'UNESCO sur l'éducation avant de se rendre dimanche aux commémorations de la bataille du Bois d'Elville dans la Somme. Le Premier ministre français Sébastien Lecornu effectuera les 15 et 16 juillet son premier déplacement officiel à l'étranger au Maroc. Accompagné d'une douzaine de ministres, il sera reçu à Rabat par son homologue Aziz Arnouch. Au programme entretien bilatéral, réunion de haut niveau entre les deux gouvernements et point presse. Cette visite s'inscrit dans le contexte du net rapprochement entre Paris et Rabat et du renforcement de leur coopération, notamment en matière sécuritaire. En France, les canicules devraient se maintenir au moins jusqu'au 14 juillet. Selon Météo France, 9 départements de l'ouest du pays vireront en vigilance rouge canicule demain. 76 autres étant en vigilance orange avec des températures pouvant atteindre 40 à 41 degrés dans le sud et un nouveau pic de chaleur attendu dimanche. Face à cette situation, le Premier ministre Sébastien Lecornu réunira vendredi une cellule interministérielle de crise. Et conséquence de ces chaleurs, l'un des plus importants incendies jamais enregistrés dans l'Indre a détruit près de 700 hectares de végétation depuis mercredi. Le feu, désormais fixé à un temps, menaçait une base militaire sans faire de victimes ni endommagés d'habitation. Plus de 240 pompiers restent mobilisés pour éviter toute reprise, tandis que les promenades en forêt et les feux d'artifice du 14 juillet ont été interdits dans le département. Le Parlement a définitivement adopté la loi portée par Gérald Darmanin sur la justice criminelle. Le texte largement remanié ne contient finalement plus sa mesure phare de plaidoyer coupable en matière criminelle, abandonné faute de majorité. Il prévoit néanmoins plusieurs dispositions pour accélérer les procédures et renforcer certains moyens d'enquête. La Cour de cassation entend rendre sa décision sur le pourvoi de Marine Le Pen avant l'élection présidentielle de 2027, a assuré le procureur général Rémy Heitz, tout en rappelant que le calendrier dépendra des recours des différentes parties. Condamnée en appel pour détournement de fonds publics, Marine Le Pen affirme qu'il n'existe plus aucun scénario qui l'empêcherait d'être candidate en 2027. Est-ce juridiquement exact ? Élément de réponse avec le constitutionnaliste Benjamin Morel.
Alors oui, on peut dire que, alors sauf un petit doute sur une jurisprudence de la Cour de cassation de 1993 qui pourrait éventuellement faire courir aujourd'hui encore l'inéligibilité, mais qui apparaît quand même relativement marginale, aujourd'hui, il apparaît assez évident qu'elle peut présenter, qu'elle est éligible. Ensuite, la question, c'est quelles seront les conditions dans lesquelles elle pourra faire campagne. Si, in fine, elle finit la campagne sous bracelet électronique, tout éligible qu'elle soit, évidemment, elle est malgré tout handicapée d'un boulet.
Cela, ça reste une possibilité, hein, une candidate à l'élection présidentielle avec un bracelet électronique et des conditions fixées par le juge d'application des peines. C'est lui qui décidera en clair quand elle pourra ou non sortir de chez elle.
Alors, elle s'était pourvue en cassation. Le pourvoi en cassation suspend l'application de cette peine. Donc, à partir de là, tant que la Cour de cassation n'a pas tranché le pourvoi, Marine Le Pen ne sera pas mise sous bracelet électronique. Si en revanche, eh bien, le pourvoi est rejeté, s'il est rejeté avant l'élection présidentielle, ça veut dire que la décision prise par la Cour d'appel le 7 juillet s'imposera à Marine Le Pen et qu'à ce moment-là, eh bien, elle sera éligible, hein, parce que la décision n'entraîne pas son inéligibilité, mais qu'en revanche, eh bien, elle sera astreinte à porter un bracelet électronique, alors elle ne le portera pas tout de suite, dès la sortie de la cassation. Il y aura une rencontre avec le juge d'application des peines qui a une échéance qui peut aller jusqu'à 4 mois, peut lui mettre un bracelet électronique. Donc même là, il n'est pas certain qu'elle porte un bracelet électronique le jour J de l'élection. Mais c'est une menace qui pèse en effet sur sa campagne.
Benjamin Morel, docteur en droit public, au micro de François-Xavier de Calonne. Place au football maintenant. Le Maroc retrouve la France 4 ans après leur demi-finale de la Coupe du Monde 2022. Un duel chargé d'histoire et d'émotion avec une place dans le dernier carré en jeu de ce Mondial 2026. On fait le point avec vous, Salma Dakhlaoui.
C'est l'affiche la plus attendue de ces quarts de finale de la Coupe du Monde, Nadia. Et pour les Bleus, l'objectif est clair, poursuivre la quête d'un troisième titre mondial. Solide depuis le début de la compétition, les hommes de Didier Deschamps veulent confirmer leur statut de favori et éviter le piège tendu par une équipe marocaine toujours aussi difficile à manœuvrer. Attention toutefois à Michael Olise, averti lors du 8e de finale face au Paraguay après une altercation en fin de match. L'ailier français est désormais sous la menace d'une suspension en cas de nouveau carton jaune s'il venait à aider les Bleus à atteindre les demi-finales. Et avant cette rencontre, Didier Deschamps a tenu à saluer les qualités de son adversaire. On l'écoute au micro de nos confrères de M6.
Les équipes, elles n'arrivent pas là par hasard. Donc, il y a 8 équipes qui sont encore là. La France en fait partie, le Maroc aussi. Donc, évidemment, on aura un adversaire de très, très bon niveau. On est censé être bon, très bon. Mais en face aussi, il y a cette qualité qui est là et qui est présente.
Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France.
Et justement, en face, le Maroc compte bien une nouvelle fois déjouer les pronostics. Salma, les Lions de l'Atlas abordent ce rendez-vous avec de grandes ambitions.
Tout à fait, Nadia. En face, les Lions de l'Atlas rêvent de prolonger leur incroyable histoire. Après avoir marqué le football africain en 2022, les hommes de Wahbi veulent prouver que leur réussite n'était pas un simple exploit, mais l'installation durable d'une grande nation du football mondial. Leur discipline défensive, leur qualité de transition et leur solidarité collective seront leurs principaux atouts. Le sélectionneur devra néanmoins composer sans Ismaël Saïbari, forfait après une blessure musculaire. En revanche, Shadi Riyad, touché au genou lors de la rencontre face au Canada, devrait bien faire partie de l'effectif pour ce quart de finale. Et vous allez voir que du côté marocain, le discours est similaire. Pour Wahbi, le statut d'outsider importe peu. L'essentiel est de répondre présent sur le terrain face à une équipe de France dont il reconnaît la très grande qualité. On l'écoute au micro de nos confrères de Beansport.
Le fait d'être favori, outsider, ça ne m'intéresse vraiment pas, en toute honnêteté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que mon équipe ait confiance et qu'elle respecte l'adversaire, qu'elle ne la craint pas. Et voilà, on a joué le Brésil, il ne fallait pas les craindre, il fallait les respecter. On a joué des équipes comme le Canada, Haïti, il fallait les respecter aussi. Donc pour moi, c'est super important. Mais voilà, le groupe, c'est un bon groupe. C'est un bon groupe qui est content d'être là. Et donc, c'est pour ça qu'on voit des sourires, parce qu'ils sont heureux aussi de continuer l'aventure. Il y a quand même 40 équipes qui sont rentrées chez elles. Et on est encore là, mais on ne veut pas s'arrêter là. On ne veut pas s'arrêter là, même si en face de nous, on a une très, 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 très belle équipe.
C'était Mohamed Wahbi, sélectionneur de l'équipe du Maroc. Et au-delà de l'enjeu sportif, cette rencontre possède une dimension particulière. Les deux sélections partagent une histoire commune, avec de nombreux joueurs ayant des liens familiaux ou culturels entre les deux pays. Un contexte qui promet une ambiance exceptionnelle, aussi bien dans le stade que devant les écrans. Alors ne ratez pas le coup d'envoi à 22h, heure française, pour ce quart de finale Maroc-France, où une seule équipe pourra poursuivre son rêve de sacre mondial.
Et à quelques heures de la rencontre, Salma, la ministre des Sports, Marina Ferrari, appelle au calme à l'approche, exhortant chacun à faire de cette rencontre une fête du sport. Les autorités ont renforcé les dispositifs de sécurité afin de prévenir tout débordement. Et en prévision de ce quart de finale, il n'y a que les binationaux qui peuvent comprendre ce qu'on ressent. C'est ce que nous dit Karim Bouamran, maire de Saint-Ouen-sur-Seine, à l'approche du match France-Maroc. Karim Bouamran, qui partage le dilemme vécu par de nombreux binationaux entre deux pays qu'ils considèrent tous les deux comme siens. Il évoque son attachement profond à la France comme au Maroc et la difficulté de voir l'une de ses équipes éliminer l'autre. On l'écoute.
C'est très, très, très dur. Il n'y a que les binationaux qui peuvent comprendre ce qu'on vit. D'autant plus que moi, c'est le moment le plus compliqué. Bon, je suis fan de foot. Bon, ça reste que du foot, mais je suis fan de foot parce que ça dépasse le foot. Comme disait Bill Shankly, le patron de Liverpool, le football, c'est pas une question de vie ou de mort, c'est bien plus que ça. Et quand vous êtes binational et quand vous voyez, j'ai vécu, moi, avec le Qatar, encore France-Maroc, c'est très compliqué parce que vous avez les deux équipes qui vous portent le plus. je suis ultra patriote. Quand la France joue, je deviens fou. Quand j'étais à New York, je suis allé les voir contre le Sénégal. J'ai plein d'amis dans le milieu du football. La France, c'est mon pays, quoi. Et le Maroc, c'est mon pays. Donc là, j'arrive, c'est un sentiment bizarre où je suis pressé que ça se passe. Parce que c'est douloureux comme moment. Et j'espère vraiment que le gagnant, donc ça sera mon pays qui gagnera la Coupe du Monde. J'espère que l'un des deux gagnera la Coupe du Monde.
Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen-sur-Seine, pour rappel, France-Maroc, c'est ce soir à partir de 22h. Bon match à la France comme au Maroc. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Raymond Jouan pour la réalisation. Je vous retrouve dans un peu moins d'une heure pour un point de l'actualité. Merci de votre fidélité.